Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien, pour vous accueillir à bord de l'émission Ensemble, nous allons sans plus tarder à l'église Saint-Martin-au-Val à Chartres pour découvrir le sarcophage d'un petit enfant, mérovingien. Son sarcophage a été ouvert pour quelques privilégiés la semaine dernière par les archéologues du service municipal d'archéologie de Chartres, le plus important de France, je vous le rappelle. L'occasion de faire le point sur un très beau chantier de fouilles en l'église Saint-Martin-au-Val. Et puis l'occasion de tendre le micro au maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, qui a fait quelques annonces susceptibles de séduire, je le pense, les archéologues du service municipal.
Le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, s'intéresse à tous les aspects de la vie municipale, bien évidemment, et il était là ce matin, presque dépotrominé, pour découvrir cet enfant dont on a soulevé le sarcophage. Ce qui vous a ému ?
Oui, parce que ouvrir comme ça une tombe, ça m'a fait drôle. En fait, bon, c'est vrai que l'aspect scientifique m'intéresse, mais aussitôt que j'ai vu des gens autour et ouvrir une tombe, ça, je sais pas, ça m'a fait drôle. Je m'attendais pas à ça, mais oui, je l'ai pas contrôlé.
D'ailleurs, vous avez donné des conseils aux archéologues pour soulever le couvercle du sarcophage sans le casser. Vous avez des tuyaux.
Oui, oui, ça, je pense, je sais faire ça. Je suis un grand bricoleur et je pense que la prochaine fois, je leur montrerai comment on fait doucement. Faut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'ils ont fait là. On peut soulever ça doucement pour que bon, les pierres, bon, ils vont les reconstituer. Mais à mon avis, il y a possibilité de faire ça sans rien casser.
En tout cas, on vous a senti passionné parce que vous vous rendez compte que c'est un aspect de la vie municipale qui peut être très intéressant, évidemment, aussi du point de vue touristique.
Oui, oui. Alors d'abord, au niveau de l'histoire, bon, cette époque mérovingienne, on s'aperçoit que Chartres, quand même, une place extraordinaire. Vous avez toutes les époques ici, on trouve de tout. Et là, le mérovingien, là, il y a vraiment des découvertes qui vont faire progresser les choses, hein, la manière de traiter les défunts, l'embaumement intérieur, extérieur. Il y a une rupture avec ce qui se faisait en Égypte, donc bon, les scientifiques sont en train de regarder tout ça, mais tous les objets qui accompagnent ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc bon, ça c'est pour l'histoire de la ville, l'histoire aussi de l'humanité, puisque c'est des évolutions. Et puis d'un autre côté, eh bien, ça peut aussi être des destinations, ça permet de faire des destinations touristiques. Là, on est à Saint-Martin-au-Val, vous voyez. Si tout ce qui est en train d'être découvert peut être accessible à l'œil, aussi à des documents pour qu'on comprenne bien, eh bien, on peut en faire une destination supplémentaire. Donc voilà, donc c'est l'archéologie, mais pas que pour comprendre pour quelques-uns, quelques scientifiques, pour quelques-uns télos. Non, pour la population. D'ailleurs, les archéologues font beaucoup d'interventions dans les écoles de Chartres, et ça me plaît bien. Vous savez, je disais ce week-end, je vais essayer d'installer le jeu d'échecs dans toutes les classes pour que les enfants puissent réfléchir, analyser, se concentrer, décider, mais l'archéologie aussi, la manière qu'ils le font, je trouve qu'on forme une jeunesse complètement différente de celle qui est derrière ces jeux vidéo, celle qui ne fait que jouer au foot ou des choses comme ça. Donc moi, cette partie-là me plaît énormément.
C'est important d'associer aussi la population locale.
Bien sûr, parce que ça coûte cher, l'archéologie nous coûte cher, la ville de Chartres maintenant à l'agglomération, mais c'est pour une bonne cause. D'abord, ça permet de faire tous les projets parce que la loi demande à ce que ça soit fait. Puis d'un autre côté, comprendre son histoire. Moi, j'étais pas un féru d'histoire parce que cette histoire racontée, je la trouvais un peu bricolée. J'avais pas confiance. Mais ça, c'est l'histoire des scientifiques qui font les démonstrations. Et ça me plaît. Donc, un côté plus cartésien, peut-être, qui prend le dessus. Voilà.
Vous aviez un plan que vous aviez à l'époque où vous étiez député, je crois, c'est ça, présenté sur l'archéologie.
Plusieurs parlementaires, je me rappelle, il y avait Jean-Pierre Door là qui est en ballotage en ce moment. Vous voyez, c'était ça en 2003. Il y avait Garrigue, le maire de Bergerac, et d'autres collègues. On avait proposé réforme de la loi puisqu'on trouvait que l'archéologie était enfermée simplement entre les mains de l'INRAP, non pas qu'il soit pas compétent, mais comme c'était une structure nationale, eh bien, on avait des délais imposés, des coûts imposés, et moi je voulais un peu mettre, libéraliser un peu le système et se libéraliser gentiment, puisque surtout permettre aux collectivités de pouvoir faire la même chose, se doter d'un service d'archéologie, puis programmer comme on le souhaite, bien sûr sous le contrôle bien sûr de l'État, puisque il y a des diagnostics, il y a des prescriptions, respecter tout ça, mais que ça soit entre nos mains pour qu'on puisse maîtriser les délais et les coûts. Et bien cette loi est passée, et depuis je trouve que ça se passe très très bien. Donc il faut toujours faire attention, parce que il pourrait y avoir des charlatans dans des structures privées qui voudraient faire un peu d'argent sans faire des études scientifiques, parce que la fouille c'est un des points, mais ce qui est intéressant après c'est la recherche scientifique et les documents qui resteront. Et bien Chartres, ça se passe très bien, on a eu jusqu'à 50 archéologues, on les a encore je pense, une cinquantaine d'archéologues, on a le plus gros service archéologique de France hein, dans les collectivités hein. Et puis ils font un travail exceptionnel, donc on les retrouve partout sur tous les chantiers, parce que sur Chartres il y en a partout. Voilà, alors qu'est-ce qui a fait que Chartres s'est construite comme ça, j'en sais rien, en tout cas moi je participerai à une partie de l'explication de tout ça.
Entre Saint-Martin-en-Val, le centre d'interprétation de la cathédrale, la fête médiévale, et puis l'installation d'un parc, vraiment le caractère médiéval de Chartres s'affirme.
Oui, là c'est un peu une autre époque, c'est au-dessus du Mérovingien, on est un peu plus loin, on avance dans les siècles, mais il reste une structure médiévale de la ville, et ça je pense qu'avec là-dessus aussi on peut capitaliser énormément. Bon, là c'est peut-être plus facile à comprendre, c'est un peu plus proche, il y a peut-être plus d'éléments, plus d'informations, mais derrière on peut vraiment faire des destinations touristiques. Donc déjà la ville elle est très visitée, sa cathédrale très visitée, on met ce patrimoine en lumière, on le fait vibrer quoi, on le fait vivre, et puis là maintenant bien il y a une proposition pour faire une fête médiévale, on va la soutenir, il y a une association qui nous propose d'en mettre en place une fête médiévale, on va soutenir ça, et en attendant d'avoir la cité médiévale, là, notre village complet qui acceptera peut-être un jour 2 millions de touristes et qui fera vivre le département.
Merci, merci beaucoup. À mes côtés, Bruno Bazin qui dirige le chantier de Saint-Martin-au-Val, un chantier qui prend de l'ampleur. Et je suppose que là, vous êtes rassuré parce que le maire de Chartres vient de vous donner son feu vert pour le prolongement du chantier.
Oui, tout à fait. On va ouvrir. On a des informations tellement intéressantes et inédites pour l'époque donc du Haut Moyen Âge, 5e siècle, 8e siècle après Jésus-Christ, que dans l'église de Saint-Martin-en-Val, qu'on va certainement pouvoir ouvrir une portion complémentaire pour avoir des informations, notamment sur le premier édifice du 5e, 6e siècle, première église, en fait, présent à Saint-Martin-au-Val.
Est-ce qu'on peut camper le décor pour nos auditeurs? L'église de Saint-Martin-au-Val, telle qu'elle s'élève aujourd'hui, elle date, elle, de quand?
Alors, l'élévation qu'on a actuellement, ce sont des élévations 17e, 19e siècle. Il reste très, très peu de choses de l'église, de la plus grande église hein, du 11e siècle. Très peu d'éléments connus, encore certains chapiteaux à l'intérieur. Un enfeu probablement sur le côté dans le déambulatoire, mais tout ce qui est en élévation 17-19e, même la façade en fait est milieu 19e. Les éléments bien sûr les plus intéressants sont dans le sous-sol. On a eu une surélévation en fait du sol à l'époque 17e lors de la restauration, donc on a tous les vestiges de l'église 11e et aussi et surtout des périodes antérieures qui sont conservées à l'intérieur de l'édifice.
Alors, l'époque mérovingienne, est-ce que vous pouvez nous la resituer? Parce que les leçons d'histoire sont assez loin, pour ce qui me concerne.
Alors, on est vers la fin du 5e siècle avec Clovis, et on va à peu près jusqu'au 8e siècle. Hein. C'est là que se développe, en fait, après l'Antiquité, plusieurs, on va dire, ensembles de groupes historiques qui viennent souvent de l'Est de la France et qui se mettent en place, donc après la chute de l'Empire romain, donc à partir de... Voilà, du milieu du 5e, fin du 5e siècle.
Oui. C'est une époque très troublée, non?
C'est une époque, on va dire, de mise en place. Donc forcément, chacun veut un petit bout de son pouvoir. On a plusieurs communautés, plusieurs groupes qui s'installent. Donc on a effectivement quelques éléments troublés à cette période-là. Mais on s'aperçoit que finalement, tout ce qu'on a pu dire parfois dans les textes avec des éléments qu'on connaît très peu du Haut Moyen-Âge, ce qui est vrai, mais les fouilles archéologiques justement mettent en évidence ce qu'on a à faire, vous avez vu, sur le mobilier à des gens relativement voilà, compétents au niveau artisanat, d'orfèvrerie. On voit aussi que les méthodes d'embaumement, finalement, les méthodes d'inhumation, par contre, n'ont pas vraiment bougé depuis l'époque antique. Donc on a affaire à quand même une certaine continuité, même si on a une modification des systèmes de pensée, des systèmes culturels. Et donc de la vie sociale.
Oui.
En fait, on appelle ça une époque trou parce que c'est une mise en place d'un nouvel aspect culturel, social, historique. On fait table rase et pas forcément complètement de ce qui s'est passé avant pour arriver à mettre en place des nouvelles choses.
Alors finalement, le baptême de Clovis n'est pas loin. On peut dire que c'est le christianisme qui s'affirme petit à petit. Qu'est-ce qui caractérise l'Église mérovingienne, en fait ?
Alors, ce qui caractérise l'Église mérovingienne...
L'Église, là, je parle bien du bâtiment. À quoi ça ressemblait, une Église mérovingienne ?
Alors,
architectural.
Point de vue architectural, c'est souvent des éléments de taille beaucoup plus petite. Les églises se modifient au 9e, 10e et prennent des proportions plus importantes. Mais ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que quand je dis qu'on a un changement de culture, etc., on a aussi des réutilisations des éléments antiques. C'est pour ça qu'on parle d'église, mais on ne sait pas exactement ce qu'on a. On peut avoir une chapelle funéraire, par exemple, tout simplement, avec une inhumation d'un personnage important, ce qui a été ensuite transformé en église parce que on a voulu se faire inhumer autour de ce personnage. On sait qu'à l'époque antique, fin de l'époque antique, on réutilise aussi des mausolées, c'est-à-dire des ensembles clos funéraires dans lesquels on peut avoir des familles entières d'inhumés, pour faire des inhumations, pour en faire des chapelles chrétiennes funéraires, en fait. Donc l'église mérovingienne, elle est souvent de plan très simple, une nef avec une abside au bout, souvent orientée vers l'est, avec parfois quelques dépendances autour, mais on a le plan classique qui se met en place, en fait.
Alors là, on est vraiment dans l'église Saint-Martin-en-Val. Devant nous, il y a une immense fosse avec de nombreux sarcophages ouverts. J'imagine que pour faire une fosse comme ça, on n'y va pas à la pelleteuse, c'est délicat, c'est un travail de combien de temps ?
Ah oui, c'est un travail très délicat puisqu'on a ce qu'on appelle des couches qui se superposent, qui historiquement viennent se mettre les unes sur les autres avec des sols, des niveaux d'occupation, des modifications de la construction. Donc il faut fouiller finement si on veut bien comprendre, d'autant plus que vous imaginez bien que dans une église, on a de l'occupation, on a des reconstructions, de l'embellissement, etc. Donc on a des démolitions de ce qui existait avant, on a aussi des fosses de pillage qui viennent piller les sarcophages. Tout ça est percé, donc si on veut comprendre l'histoire, remonter l'histoire, il faut fouiller finement. Là, on est là depuis 2013 à raison d'une campagne de 1 à 2 mois par an, en fait.
Alors, j'étais très étonné d'apprendre lorsque vous aviez ouvert le sarcophage d'une jeune femme, je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, c'était que les pilleurs de sarcophages ont existé, mais dès le début finalement, quelques mois après l'enterrement de quelqu'un, on pouvait piller un sarcophage.
Oui, alors c'est un peu plus complexe que ça. C'est vrai que dès l'époque mérovingienne, on a trace d'ouverture de sarcophages. Alors, on peut pas toujours dire que c'est du pillage. On peut aussi venir chercher des reliques. On peut aussi déplacer les corps, en fait, pour aller les inhumer ailleurs, pour les mettre ailleurs. Donc ça, c'est des pratiques très connues qui perdurent relativement longtemps. On a aussi ce qu'on appelle des pillages, c'est-à-dire des personnes qui sont venues parce qu'ils connaissent l'existence d'un sarcophage ou tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a des inhumations en dessous et qu'ils savent qu'à l'époque on inhume avec des objets et parfois des objets importants de qualité exceptionnelle. Donc là, ils viennent véritablement récupérer les objets. On a trace dans les ouvertures qu'on avait des sarcophages déjà ouverts, d'un ou deux sarcophages qui ont fait l'objet de pillage puisqu'on a le corps qui est légèrement perturbé à certains endroits, les os sont bougés, et qu'on ne conserve plus aucun objet à l'intérieur. Donc là, on est sûr qu'on a affaire à, avec la fosse qui est ouverte au-dessus, on est sûr qu'on a affaire à des pilleurs de tombes, en fait.
Et on cherchait quoi ? De l'or ? On cherchait quoi ?
On cherchait des beaux objets pour les écouler par la suite, certainement. De l'or, bien sûr, pour récupérer de l'argent. Et aussi, probablement, alors on connaît peut-être moins, mais des objets relativement précieux pour ensuite en faire des reliques et pouvoir les exposer, les revendre, etc.
Alors, qui était ces gens que nous avons là, exhumés à Saint-Martin-au-Val?
Alors, je ne pourrais pas vous donner exactement le nom des personnes ni ce qu'ils faisaient, mais ce qu'on sait, d'après les analyses qu'on a pu en faire, c'est qu'on a affaire à une population d'un rang social relativement élevé, puisqu'on a, ils sont inhumés dans des sarcophages souvent importés, avec des objets relativement riches. Et on voit bien qu'en plus, les analyses des décompositions à l'intérieur des sarcophages montrent qu'on a affaire à des gens qui sont embaumés, donc ce qui est réservé comme une population relativement aisée. Donc voilà, on sait qu'on a une catégorie sociale de haut rang qui est inhumée à l'intérieur de Saint-Martin-en-Val, ce qui montre l'importance de cette église dès l'époque mérovingienne.
Est-ce qu'on connaît les techniques d'embaumement ? On les connaît ou...
Alors, pas beaucoup, très très peu à l'époque mérovingienne. On les connaît à l'époque antique, en Égypte, à Rome aussi, on les connaît parce qu'il y a eu beaucoup d'analyses. Mais pour l'époque mérovingienne, on connaît très peu de choses parce qu'il y a très peu d'analyses qui ont été faites à l'intérieur du sarcophage. Donc ça, c'est inédit, c'est vraiment une nouveauté qu'on a. Nous, on a fait l'année dernière, on vient d'avoir les résultats. On sait qu'on a affaire soit à des embaumements extérieurs, c'est-à-dire pour présenter les corps, on a des traces de cire d'abeille, de cire végétale, de vinaigre, de vin. Donc ça, c'est tous les éléments qui sont constitutifs des crèmes pour embaumer les corps, donc c'est-à-dire aussi pour les présenter. Donc là, ça confirme aussi qu'on a affaire à une population aristocratique assez importante. Donc un élément scientifique inédit qui sera présenté au colloque donc de la femme en 2020, quelque chose qui est voilà encore très très peu connu pour l'époque mérovingienne.
Deux mots sur ce colloque, alors c'est quoi, de quoi il s'agit ?
Alors le colloque de la femme, c'est l'association française d'archéologie mérovingienne. Le maire de Chartres a décidé de l'accueillir pour son colloque de 2020. Donc ce sont tous les scientifiques qui travaillent sur l'époque mérovingienne et le haut Moyen-Âge. Et même le Moyen-Âge, qui viennent se réunir pour discuter des nouveautés, de thématiques. Donc là, c'est celui de Chartres sera axé sur le tissu, à l'époque mérovingienne. Et puis il y aura des présentations de communication, de fouilles inédites, et notamment de résultats, bien sûr, de Saint-Martin-en-Val.
C'est une époque relativement mystérieuse encore, les mérovingiens. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir.
On sait beaucoup, beaucoup de choses. On commence à avoir beaucoup, beaucoup d'éléments maintenant, avec les fouilles archéologiques, les textes aussi qui ont été réétudiés, réinterpréter. Donc l'époque mérovingienne reste comme toutes les époques. Il y a toujours des choses qu'on ne peut pas savoir et qu'on découvre petit à petit. Mais on en connaît beaucoup, beaucoup plus maintenant sur l'époque mérovingienne. Alors à Chartres, ça reste relativement inédit puisque des fouilles de l'époque mérovingienne, il y en a eu très peu avant celle de Saint-Martin, très sporadiquement. Donc l'ensemble de traitement de toutes ces fouilles qui ont eu lieu depuis les années 50, 60, 70, plus les nouveautés vont permettre d'avoir une synthèse de l'évolution de la ville à l'époque mérovingienne.
On ne sait pas à quoi ressemblait Chartres aujourd'hui à l'époque mérovingienne.
Non, on commence à le deviner un petit peu avec justement toutes ces fouilles, et ça sera le but et l'objet de cette synthèse qui sera présentée au colloque de la femme.
Est-ce qu'on peut aller voir les objets ensemble, peut-être ? Parce qu'il y a une petite armoire de verre avec des objets dont certains sont vraiment très très délicats. Moi, ce que j'ai trouvé de plus beau, ce sont deux objets en ivoire sculptés très finement.
Oui, ce sont deux, ce qu'on appelle des boucles qui permettent de tenir les chaussettes à l'époque mérovingienne, les deux petites contreplaques rectangulaires. Bon, ce sont des boucles classiques, mais qui sont réalisées en ivoire, donc un matériau relativement précieux, avec des décors de dauphins pour les deux boucles. Et les contreplaques, un décor de croix pâtée, donc une croix classique de l'époque mérovingienne, et un visage de femme dessus. Alors, ce sont des objets relativement inédits, parce que sur l'ensemble du monde mérovingien jusqu'à présent, qui est relativement large, on en a à peu près 55, dont deux à Chartres. Et ce type de décor sur ces plaques sur ces boucles et contre-boucles sont inédits, c'est-à-dire qu'ils n'ont été découverts jusqu'à présent sur aucun autre objet de ce type-là.
C'est le deuxième objet très singulier que le service municipal d'archéologie de Chartres découvre après le chaudron du magicien.
Oui, c'est un objet relativement important pour la compréhension de l'aspect social à l'époque mérovingienne et inédit, oui, effectivement. Oui.
Qu'est-ce qu'un dauphin vient faire ici, par contre ?
Alors le dauphin, c'est toujours le problème, puisqu'on a la jonction entre l'époque antique et mérovingienne. Le dauphin, en fait, est à la fois le symbole pour l'époque antique, un symbole donc de la renaissance de l'eau, mais à l'époque chrétienne, ça devient aussi le symbole du Christ. Donc comme on est en transition, je disais, on est vers le milieu du 6e, 7e, entre l'Antiquité qui n'est pas complètement effacée et la période mérovingienne qui se met en place tout doucement, il faut rester prudent. Mais là, on a probablement affaire plus au symbole du Christ, représenté sous la forme du dauphin.
Alors, il y a également des perles. C'est une perle, c'est une perle en or.
Oui, ça, ce sont d'autres objets découverts donc dans un sarcophage de femme. Dans tous les autres objets, on a une perle ici en or, avec une âme, une petite tige en alliage cuivre dedans. Ici, une applique relativement rare aussi, qu'on appelle de type germanique, avec le décor qui est représenté dessus, qui est en or, émaillé en rouge. Donc il y a encore la trace à l'intérieur des creux en fait décorés, des boutrolles de couteaux, donc ce sont des éléments qui sont mis à la pointe du couteau pour éviter de se piquer lorsqu'on le porte sur le côté de la jambe. Là on voit qu'on a affaire aussi à des éléments extrêmement bien décorés, richement décorés, avec une partie en argent, une partie en or. Et puis d'autres éléments donc de même type que je vous disais tout à l'heure, les boucles ici de chaussettes qui sont cette fois-ci découvertes dans un autre sarcophage, qui sont des boucles en argent.
On dirait qu'elles sortent de la boutique du magasin, elles sont extrêmement...
L'argent s'altère très peu. Et d'autre plus, il faut savoir que donc la direction de l'archéologie possède un laboratoire de restauration. Donc elles ont aussi été restaurées, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'elles, à part une petite usure en surface qu'on voit, qu'elles sortent effectivement, qu'elles viennent d'être mises dans le sarcophage directement.
Alors il y a des petits fils d'or, c'est très émouvant, c'est extrêmement délicat. Ils viennent d'où ces petits fils d'or ?
Alors les fils d'or, on les a trouvés tout autour de la tête du petit bébé qu'on avait dégagé il y a 2 ans maintenant. Ce sont des fils d'or qui ont été retrouvés autour du crâne et un petit peu autour de la bouche. Lorsqu'on a fait l'étude du tissu, on s'est aperçu que ces fils d'or en fait venaient décorer un tissu qui était autour de la tête, donc probablement une coiffe autour de ce bébé pour lui protéger la tête au moment de l'inhumation, un décor qu'on n'a pas réussi à restituer, mais qui venait sur ce tissu. Était associé aussi à ce petit bonnet les éléments de perles que vous avez ici avec les anneaux en cuivre et en fer qui venaient donc fermer en fait le bonnet autour de la tête de l'enfant.
Est-ce que les Chartrains auront la chance de découvrir ces objets prochainement? Je crois que le maire de Chartres aimerait que les Chartrains puissent découvrir tout ce travail que vous faites dans l'obscurité finalement aujourd'hui. Ça vous plairait de montrer ça aussi aux Chartrains, j'imagine?
C'est le but, et le maire l'a confirmé, l'a dit en venant ici voir l'ouverture et en discutant, c'est de que tout le monde puisse avoir accès à ces objets, comprenne bien l'histoire de leur ville et donc puisse mettre en valeur et valoriser toutes les découvertes qui sont faites au sein de Chartres par la direction de l'archéologie.
Donc la prochaine étape, eh bien, vous allez continuer de creuser, les travaux vont continuer pour découvrir la tête de l'église mérovingienne, c'est ça ?
Oui, alors on a la chance d'avoir mis en évidence donc que les sarcophages étaient bien inclus à l'intérieur d'un édifice religieux. Cet édifice religieux va vers l'ouest et ce qui sera intéressant, c'est d'avoir justement la partie la plus sacrée de cet édifice qui se trouve probablement dans la continuité des murs mis en évidence, donc à l'ouest, probablement le chevet de l'église, que le maire là aussi l'a confirmé, il y aura une ouverture complémentaire jusqu'au pied des marches de l'église pour bien comprendre comment s'organisait cet édifice important dans la topographie chrétienne, on le sait, puisque c'est ici que viennent se faire inhumer les premiers évêques de Chartres, notamment Saint-Lubin, très bien connu dans un texte du 9e.
Je crois qu'ils passaient la nuit d'ailleurs avant leur ordination ici. Hein.
Exactement, oui, à Saint-Martin-au-Val.
Alors, vous craignez que finalement de creuser, ça mette en péril les murs actuels de l'église actuelle. Apparemment, c'est du solide. Hein.
Oui, on a des massifs de fondation extrêmement importants qui donc soutiennent bien l'édifice. Depuis 2013, le sondage est ouvert. Pour l'instant, rien n'a bougé. Bon, après, il faut rester prudent, bien sûr. Hein. C'est un édifice religieux. On a ouvert au milieu. La nouvelle partie qui sera ouverte n'affecte pas du tout les piliers. Donc, ce sera une partie relativement plus stable, si on peut dire, par rapport à la zone qui a été ouverte précédemment.
L'aventure continue. Merci beaucoup, Bruno Bazin.
Merci à vous.
C'était Bruno Bazin du service municipal d'archéologie de Chartres et responsable des fouilles en cours en l'église Saint-Martin au Val. Prochaine édition chartraine de l'émission Ensemble dans 4 semaines. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Ranciel, la radio qui rapproche les hommes. Thank you.